France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le lundi 4 janvier. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, vaccination acte 2. Le gouvernement entend accélérer la cadence. Après une première semaine très laborieuse, débute aujourd'hui la campagne de vaccination des soignants de plus de 50 ans. Ils sont 1 200 000 et on en parlera à 8h20 avec Elisabeth Bouvet, infectiologue et présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé, et avec le généticien Axel Kahn qui préside, lui, la Ligue contre le cancer. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Les autres titres, Agnès.
Ces jours de rentrée sous fond de Covid dans les écoles, les collèges et les lycées, et pour quelques étudiants en difficulté, les nouvelles règles du fonds de solidarité pour les entreprises, le Brexit, pour s'installer en Grande-Bretagne, il faudra désormais avoir un contrat de travail en poche, et puis aux États-Unis, la Géorgie décidément au centre de toutes les attentions.
Et votre invitée, Léa, à 7h50.
Une femme puissante, écrivaine prolixe et surdouée, lauréate du prix Goncourt il y a 10 ans, elle revient avec La Vengeance m'appartient, un roman important, dérangeant, l'histoire d'une avocate qui défend une femme infanticide. On est content de commencer l'année avec Marianne Guia, et elle sera avec moi à 7h50.
À tout à l'heure, Léa.
France Inter.
Passer à la vitesse supérieure, c'est l'objectif du gouvernement dans les tout prochains jours pour faire taire les critiques qui, après les masques et les tests, dénoncent un nouveau fiasco, appellent quelques centaines de personnes vaccinées en une semaine, quand l'Allemagne a déjà vacciné plus de 200 000 personnes. Alors pour accélérer la cadence, les contraintes administratives vont être allégées pour la vaccination des résidents des EHPAD, et la vaccination des soignants de plus de 50 ans va débuter non pas début février, mais dès aujourd'hui. Marion Ferrer.
Ils sont 1 200 000 soignants concernés et d'ici fin janvier, ils devraient être tous vaccinés. Médecins généralistes, infirmiers, aides-soignants ou encore paramédicaux. Parmi eux, Marc Sauvadet, podologue dans les Yvelines.
Traité pour hypertension et 62 ans, donc je fais partie des personnes qui doivent faire très attention. Si j'ai la possibilité de me faire vacciner, oui, je me ferai vacciner. Je crois que c'est pour ma sécurité et celle de mes patients puis de ma famille.
Ce vaccin, pour lui, est nécessaire. Il juge la campagne française bien trop longue au démarrage.
C'est trop lent. Puis en France, il y a trop d'administratifs avant de pouvoir avoir l'autorisation de vacciner quelqu'un. Il faudrait quand même qu'on accélère les vaccinations. Ça prend un peu trop de temps maintenant si on veut être efficace.
Sentiment partagé dans le Grand Est par le docteur Patrick Vaught. Ce généraliste pratique à Mulhouse. À 64 ans, il a été contaminé au printemps dernier, mais ne se sent pas invincible. Et se faire vacciner, c'est aussi pour lui montrer l'exemple.
Il y a beaucoup de gens, une personne sur deux, qui présentent des doutes quand ils viennent me voir. Et la question est, et vous, que ferez-vous? Et moi, je leur dis clairement, je me ferai vacciner dès que c'est possible, parce que je pense que c'est un bénéfice. Ce vaccin est la seule arme vraiment efficace qu'on a contre les virus, je crois qu'il faut qu'on se vaccine.
Les soignants hospitaliers seront les premiers vaccinés. Ensuite, pour les professionnels se trouvant en ville, il faudra se déplacer dans la centaine d'hôpitaux où sont déjà stockés les flacons du vaccin.
Et ce sont les soignants du Grand Est qui seront vaccinés en priorité en raison de la forte circulation du Covid dans cette région. 12 489 nouvelles contaminations enregistrées hier en France, 117 décès et un taux de positivité en hausse depuis quelques jours à 5,2%. En ce jour de rentrée des classes et alors que circule le variant anglais du Covid-19, des voix s'élèvent pour demander des dépistages massifs d'élèves. C'est ce qu'est en train d'organiser la Grande-Bretagne dans le secondaire. La Grande-Bretagne qui va également commencer à administrer aujourd'hui le vaccin développé par AstraZeneca. En France, face à la détresse des étudiants, le gouvernement avait promis un retour de certains jeunes sur les campus dès aujourd'hui. Mais finalement, Alexis Morel, ce retour sera très très progressif.
Les consignes du ministère sont tombées au début des vacances. Alors en cette rentrée, il va falloir d'abord identifier ces plus fragiles, étudiants de première année, jeunes en rupture numérique par exemple. Pour repérer les situations les plus inquiétantes, l'université de Reims a envoyé pendant les fêtes un questionnaire à ses étudiants, et c'est sur cette base que son président, Guillaume Gellé, va constituer ses groupes cette semaine.
Il y a toute une frange d'étudiants qui ont vraiment envie de baisser les bras en plus grand nombre que les années précédentes, et ces étudiants-là qu'il faut qu'on aille chercher absolument et qu'on raccroche pour le second semestre. Mais cela implique qu'ils reviennent dans nos campus parce que tout seuls, ils n'y arrivent pas. Donc, sur des séances de méthodologie, de soutien, sur rendez-vous.
Des groupes de 10 seulement accueillis sur convocation, c'est bien trop peu, c'est impossible à gérer, selon Michel Deneken, à la tête de l'Université de Strasbourg.
Que la jauge est tellement infime, c'est vraiment de la loterie. 10 par classe, c'est encore largement en dessous de toutes les fragilités que l'on peut repérer depuis le début de la crise. Donc nous préférons prendre du temps pour assurer une vraie rentrée, on l'espère, le 20 janvier.
Et le ministère prévoit en effet un retour plus large des premières années à partir du 20 janvier pour les travaux dirigés, mais seulement si la situation sanitaire le permet.
Le 20 janvier, c'est aussi la date fixée pour un nouvel examen de la situation pour les théâtres, musées et cinémas qui ne rouvriront pas en fin de semaine. D'où l'idée de prolonger l'année blanche pour les 276 000 intermittents du spectacle. Le fonds de solidarité pour les entreprises, lui, va évoluer. Le soutien général de 1500 euros par mois pour faire face à la crise s'arrête en ce début d'année. Et il va cibler désormais, Delphine Simon, les entreprises les plus en difficulté.
Le fonds de solidarité, c'est le pilier du plan d'urgence selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Et pour cause, le dispositif coûte 17 milliards d'euros aux caisses de l'État en 2020. 7 milliards supplémentaires sont d'ores et déjà prévus en 2021. Depuis mars, près de 2 millions d'entreprises en ont bénéficié. Mais à l'heure où la dette publique frôle les 120% du PIB, l'objectif désormais, c'est de se concentrer sur les secteurs les plus touchés, donner plus à ceux qui ont le moins, selon Bercy. Les entreprises toujours fermées, les discothèques, bars ou restaurants pourront prétendre à une aide maximum de 10 000 euros ou équivalente à 20% de leur chiffre d'affaires. Une aide plus conséquente aussi pour la viticulture, la pêche en mer que Bercy vient d'élargir aux zones de montagne, les commerces, locations immobilières et articles de ski. En revanche, comme en juillet, le robinet financier se referme pour toutes les autres dont l'activité repart, fleuristes, comptables indépendants ou coiffeurs.
Les trains, eux, n'ont pas fait le plein durant les vacances de Noël. 3,7 millions de passagers contre 5 millions habituellement et des réservations tardives dans les 5 jours précédant le départ. Le taux d'occupation moyen des rames avoisine les 60% sous le seuil de rentabilité. La SNCF perd donc encore de l'argent, plus de 5 milliards d'euros depuis le début de la crise sanitaire.
Il est 7h07 et c'est, Agnès, jour de réalité pour le Brexit.
Après le week-end du Nouvel An, les choses sérieuses commencent. Les frontières douanières sont rétablies. Nous verrons dans le journal de 8h comment les échanges s'organisent désormais à Calais. C'est la fin aussi de la liberté de circulation et d'installation au Royaume-Uni, dont ont bénéficié de nombreux étrangers. Il faudra désormais avoir un contrat de travail et un salaire minimum de 28 000 euros annuels pour obtenir un visa. Dommage, estime David Roulant, un chauffeur de taxi français installé à Londres et qu'a rencontré Marie-Pierre Véraud.
Bonjour, je m'appelle David Roulant.
David Roulant et Londres, c'est une histoire d'amour. Arrivé en 1991 pour apprendre l'anglais, il tombe sous le charme de la capitale, rencontre sa femme et l'aventure, qui devait durer 6 mois, se poursuit depuis 30 ans. C'était l'époque bénie où les étrangers pouvaient venir avec 3 francs 6 sous en poche.
On rentrait dans un établissement où on pensait, oh, tiens, il y a peut-être un boulot ici. On demandait à parler avec le manager, est-ce que vous avez besoin de personnel? Et souvent, il disait oui. Et on commençait le lendemain.
Voilà. Pas besoin d'avoir un contrat de travail, un salaire minimum et un bon niveau d'anglais, comme c'est le cas depuis l'entrée en vigueur du Brexit. David enchaîne les petits boulots dans la restauration, à la City, majordome, croupier. À la naissance de son fils, il décide de devenir son propre patron. Il passe alors le permis de taxi londonien si réputé et organise des visites privées de Londres dans son black cab.
Et on y va, on va faire un petit tour.
On a Hyde Park à droite, Parc Royal.
Cette fermeture aux étrangers avec le Brexit, c'est une erreur, pense-t-il, parce que l'immigration est aussi une richesse.
Je pense avoir contribué à l'économie du pays, d'avoir créé un business, de payer des impôts, de faire de la promotion en fait, du Royaume-Uni maintenant dans mon boulot. Et je pense que mon expérience, ça va être très dur à quelqu'un qui va arriver dans les prochaines années de faire la même chose en fait.
Londres, Fabien Gosset, Marie-Pierre Véraud, France Inter. Une décision très attendue de la justice britannique. Ce matin, un tribunal de Londres doit se prononcer sur la demande d'extradition vers les États-Unis de Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks risque une peine de 175 ans de prison. Les autorités américaines lui reprochent d'avoir publié plus de 700 000 documents classifiés sur les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Aux États-Unis, Donald Trump aura tout tenté pour modifier le résultat de l'élection présidentielle avec un coup de fil hallucinant hier soir au secrétaire d'État républicain de Géorgie pour lui demander de trouver 11 780 voix en sa faveur. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Mais l'avenir du mandat de Joe Biden se joue demain en Géorgie, justement, avec les élections sénatoriales. Deux élus démocrates et le président élu pourra faire passer ses réformes. Un élu républicain et ce sera beaucoup plus difficile. Les deux camps dépensent donc des millions de dollars en spots de campagne avec des visages connus. Sébastien Paour est à Atlanta pour France Inter. Georgia.
L'enjeu est tel que le couple Obama a été appelé en renfort côté démocrate. Voici d'abord le message de l'ancien président pour le candidat John Ossoff. Red Charles, repris par John Legend, en fond. Vous pouvez envoyer John Ossoff au Sénat pour combattre ce virus, reconstruire notre économie et que tout le monde puisse se payer des soins de santé. La Géorgie a le pouvoir et maintenant il est temps de voter.
I'm John Ossoff and I approve this message.
Message aussi de l'ex-première dame.
Hello Georgia, this is Michelle Obama.
Pour le pasteur de l'ancienne église de Martin Luther King. Je vous demande de voter pour le révérend Raphaël Warnock. Assurez-vous que votre voix soit entendue. Côté républicain, l'équation est plus complexe pour mobiliser. L'un des deux candidats, David Perdue, ne fait plus campagne à cause du Covid. Il est cas contact et en quarantaine chez lui. Le sénateur du Texas, Ted Cruz, a fait le déplacement ce week-end en Géorgie pour Kelly Loeffler, pour appeler aux urnes, malgré les accusations de fraude électorale de Trump. Ils ont essayé de voler l'élection, c'est vrai. Mais voilà ce qu'on va faire. Nous allons gagner avec une marge assez grande pour que personne ne vole l'État de Géorgie. Les démocrates doivent gagner les deux sièges pour revenir à 50 sénateurs dans chaque camp. Il suffit d'un aux républicains pour conserver la majorité. Atlanta, Sébastien Paour, France Inter.
Et ajoutons que la démocrate Nancy Pelosi, 80 ans, vient d'être réélue à la présidence de la Chambre des représentants.
Et enfin, Agnès, c'est la rentrée littéraire d'hiver.
Presque aussi riche, Nicolas, que la rentrée de septembre. 493 romans à paraître d'ici fin février. C'est un peu plus que l'an dernier à la même période. Et pour cause, certains livres déprogrammés de la rentrée d'automne en raison de la crise sanitaire vont enfin paraître. Et c'est une rentrée française pleine de panache, nous dit Diana Moriousset.
Marine Diaye sera à coup sûr la reine de la rentrée d'hiver avec son nouveau roman « La vengeance m'appartient ». À ses côtés, du beau monde, Lionel Duroy, Yasmine Areza et Sylvain Prudhomme. Parmi les grosses pointures, on peut également citer Tahar Ben Jelloun, Éric Emmanuel Schmitt, Andrei Makine, Philippe Besson et même Leïla Slimani qui enrichit la collection « Ma nuit au musée » des éditions Stock. Parmi les voix que l'on a plaisir à retrouver, Nathalie Kuperman, Gaël Josse, Joyce Sormand, Vanessa Bamberger, Judith Pérignon et Alain Fléchère. Sans oublier les premiers romans dont certains avaient été reportés pour cause de pandémie. Abigail Assor fait ses premiers pas chez Gallimard, avec Aussi riche que le roi, et c'est réjouissant. Ne pas rater non plus Annie Lulu chez Julliard pour La mer noire dans les grands lacs. Les formats poche sont de la partie, eux aussi. On trouvera en folio Les choses humaines de Karine Thuil, Goncourt des lycéens et Prix Interallié l'an dernier. Et enfin, le livre qui a été au cœur du débat public tout au long de l'année, Le consentement de Vanessa Springora, paraît au livre de poche.
Marine Daï qui sera l'invitée de Léa Salamé tout à l'heure à 7h50 évidemment.
Merci Agnès Soubiran. Le Zoom dans 3 minutes, retour ce matin à Ouran où tout a commencé.